comment passer de 80 heures par semaine en quasi burn-out à 40 à 45 heures par semaine. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors je sais que quand tu as entendu mon introduction, tu as dû te dire « là Cédric il fait fort, il fait carrément dans le piège à clic » pour le dire poliment. Et pourtant, passer de 80 heures par semaine à 40 à 45 heures par semaine, c'est la réalité, c'est possible, je ne l'ai pas inventé, c'est ce qui est arrivé à Gendal qu'on reçoit aujourd'hui dans le podcast. Gendal, il va nous expliquer son parcours, comment il est devenu le patron de ses anciens collègues, comment il s'est libéré du complexe de l'expert, comment il a fait face à 30% de turnover, comment il est devenu serein alors qu'auparavant il se sentait pris en otage par ses salariés, comment il a accéléré la mise en route des nouvelles recrues pour les rentabiliser plus rapidement, et pourquoi, en même temps, ses collaborateurs se sont épanouis et pourquoi aujourd'hui ils sont heureux chez lui. Il va nous expliquer aussi comment il a délégué à son bras droit ou à sa bras droit, je ne sais pas s'il existe un féminin. Et enfin, il va nous donner ses conseils les plus importants en fin d'interview. Que tu sois chef d'entreprise ou manager salarié, je pense que le témoignage de Gendal va t'inspirer et qu'il te montrera qu'il est possible de vivre totalement différemment ta vie de manager. Je te laisse avec l'interview de Gendal. Bonjour Gendal.
Bonjour Cédric.
Comment vas-tu ?
Ben écoute, ça va super bien et toi ?
Ben, très content de t'accueillir sur le podcast. T'es dans quelle région ?
Moi je suis dans la région lyonnaise.
D'accord, ok.
Je crois qu'on est un petit peu éloigné.
Oui. Moi aujourd'hui je suis pas à Calais parce qu'on a dû décaler l'enregistrement parce que j'avais du bruit à côté de chez moi, mais je suis pas très loin, je suis dans les bureaux de ma société qui est à une demi-heure de Calais.
D'accord.
Est-ce que dans un premier temps, je peux te laisser te présenter et puis nous dire un petit peu quelle est ton activité professionnelle ?
Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Gendal Ramon, j'ai 37 ans. Au niveau de mon activité professionnelle, je suis expert comptable à mon compte.
Ouais.
C'est une société que j'ai rachetée en 2017, et au sein de laquelle j'avais commencé à travailler il y a très longtemps de ça. J'avais commencé à y travailler en 2008 en tant que collaborateur. Et on va dire, force de patience, de persévérance, et puis bon, ça faisait partie de mes objectifs que d'être à mon compte. J'ai eu une opportunité à un moment donné de racheter la structure et donc j'en suis aux manettes, complètement aux manettes depuis janvier 2017. Ce qui a été une situation d'ailleurs un petit peu étrange, on pourra éventuellement reparler plus tard, mais parce que mes salariés étaient avant mes collègues.
Oui.
Et forcément, c'est un changement de statut assez violent que j'ai même eu du mal à appréhender au début. Après, j'ai fini par prendre un autre pli, mais je pense que c'est un vrai point de difficulté pour
c'est certain. Il y a déjà une difficulté à passer manager de nos anciens collègues, mais alors de passer en plus d'un seul coup au stade de manager et de propriétaire de l'entreprise, ouais, ça peut nécessiter des petits ajustements. Ça m'intéresse d'avoir ton avis et ton expérience là-dessus.
D'accord. Ok.
Donc aujourd'hui, ton cabinet, en fait, c'est combien de personnes ?
J'ai trois collaboratrices aujourd'hui. Quand je l'ai récupéré, on était également à trois. Il y avait également trois collaboratrices. Parallèlement, donc j'ai deux co-associés, dont chacun leur cabinet d'expertise comptable également par ailleurs. Donc on est pleinement indépendant. Chacun mène les choses, on va dire, selon son tempérament, avec sa propre équipe. Il n'y a pas vraiment de transverse entre les structures.
D'accord.
On fait régulièrement un point ensemble. On a commencé à faire ça d'ailleurs depuis septembre dernier, parce qu'on s'est rendu compte qu'on échangeait peut-être pas suffisamment. C'était une approche plutôt intéressante. Et c'est vrai que la particularité, ça me permet déjà de rebondir sur un sujet, c'est que par rapport à un manager qui a justement des subalternes, des collaborateurs et un boss au-dessus, soit avec un N+1, voire un N+2, etc. En tant que chef d'entreprise, c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment au début d'être effectivement au top de la pyramide. Oui. En fait, on n'est pas forcément tout seul à ce niveau-là, et notamment avec des co-associés. C'est pas des boss, c'est pas des patrons, mais en même temps, il y a quand même un minimum de comptes à leur rendre pour que les choses se passent bien et que eux aussi, ils aient le sentiment que les billes qu'ils ont mises à un moment donné, ça les engage aussi. Et comme c'est moi qui pilote, ils ont besoin aussi par moment de se sentir rassurés et de voir que je fais pas n'importe quoi. C'est un sujet à mon avis qui peut être qui est assez intéressant, quoi.
C'est-à-dire qu'eux, ils ont des participations dans ton capital.
Ouais, c'est ça.
Et toi, tu as des participations dans le leur ou l'idée c'était d'avoir un apport pour reprendre la structure, je suppose.
En fait, ça a été nous justement dans le domaine de l'expertise comptable, pour être à son compte, il faut qu'on soit diplômé. Oui. Et à l'époque, en fait, mes co-associés maintenant avaient racheté le cabinet intégralement à un moment où j'étais en place, mais j'étais pas encore diplômé.
D'accord.
Et c'est une fois que j'ai obtenu mon diplôme que à un moment donné, on a mis le deal sur la table. C'est soit je m'en vais pour me mettre à mon compte, parce qu'après tout, c'était ça que je voulais, soit ils me font une proposition pour que j'intègre le capital et que je prenne les manettes intégralement.
D'accord. Le diplôme, et c'est le DESCF, c'est ça ?
Alors, c'est même le diplôme d'après, c'est le DEC. DESCF, c'est l'équivalent master, l'équivalent bac plus 5. Et d'accord. Le diplôme d'expertise comptable, c'est un équivalent bac plus 8.
D'accord, ok. Ok, intéressant. Et donc, ta clientèle, en gros, c'est donc des entreprises, je suppose.
Oui, c'est ça. Alors, essentiellement, des très petites entreprises. Et je ne dis pas ça péjorativement. J'ai l'habitude de me présenter en leur disant que je suis une petite boîte pour les petites boîtes, en fait.
D'accord.
Un tout petit cabinet et je travaille avec des petites structures. Alors, globalement, c'est des entreprises. Alors, j'ai une centaine de clients. La moyenne se situe à moins de 10 salariés et moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo.
D'accord.
Et ce sont des structures, on va dire, sur des domaines d'activité très, très diverses, très variés. J'ai du transport, j'ai du bâtiment, j'ai du nettoyage, j'ai des restos, j'ai des médecins, des sociétés, on va dire, plus sur de l'investissement immobilier, par exemple. Donc c'est assez divers, ça permet de toucher à plusieurs choses et ça, c'est plutôt intéressant. D'accord. C'est l'avantage d'être une petite structure non spécialisée, quoi. Et donc je me positionne un peu comme généraliste pour des chefs d'entreprise.
D'accord, ok.
Et donc du coup l'idée c'est d'aider ces chefs d'entreprise à y voir un peu plus clair dans leur rôle et dans leurs obligations. C'est vrai que en France on a quand même pas mal des obligations en tant qu'entrepreneur. Et donc, par moment, c'est assez difficile d'y voir clair, surtout sur des profils de personnes qui n'ont jamais été chefs d'entreprise. C'est quand même une grosse nouveauté, c'est une grosse découverte. C'est un monde qu'on peut essayer d'imaginer, on peut essayer de se documenter, mais une fois qu'on le vit, c'est quand même très, très différent.
Ouais.
Donc, au-delà des aspects vraiment légaux et réglementaires sur les subtilités des règles fiscales, sociales et juridiques, des sociétés françaises, il y a aussi un peu cette approche accompagnement du dirigeant pour qu'il se retrouve pas non plus trop désillusionné dans un idéal qui se serait créé en tant que chef d'entreprise, ou à l'inverse de dédramatiser certains points parce qu'il y a des moments où on se fait des montagnes de choses et on est là aussi pour les rassurer sur certains aspects, quoi.
Oui, quand on est chef d'entreprise, en général, c'est parce qu'on veut être indépendant et ne rendre des comptes à personne. On se rend compte assez vite qu'on a des comptes à rendre, et beaucoup. Mais après, voilà, chacun sa spécialité. Je rejoins complètement. C'est-à-dire que c'est pas au chef d'entreprise de devenir un spécialiste comptable fiscal ou social ou de connaître tous les textes. C'est vraiment, il faut savoir s'entourer de ce côté-là, parce que sinon, on peut y passer sa vie et oublier simplement de développer sa boîte, quoi. Donc,
bien sûr.
En effet.
Ouais. Alors le travers inverse, ce sont des chefs d'entreprise qui délaissent complètement cette partie-là, qui partent du principe que dès lors que je l'ai délégué, je m'en lave complètement les mains. Et ça, mine de rien, ça peut avoir très vite une limite. Si le chef d'entreprise n'a pas quand même un minimum de bagages et de clés de compréhension sur les aspects même fiscaux ou gestion de la paye, par exemple, ça peut arriver. J'ai des chefs d'entreprise, on leur traite leur bulletin, ils ne comprennent pas du tout. Et quand le salarié leur pose des questions, ils sont à se dire « Non, mais voyez avec le comptable. » Oui, non, mais en fait, le chef d'entreprise, c'est toi, et ce serait quand même pas mal que tu sois en mesure d'expliquer à tes salariés, par exemple.
Donc, ça veut dire que tu as un rôle qui est un petit peu supplémentaire, toi, qui est de sensibiliser aussi probablement le chef d'entreprise à cet aspect-là.
Ah oui, c'est un élément qui, historiquement, on va dire, était assez négligé par des cabinets d'expertise comptable. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose d'hyper important d'expliquer aux dirigeants que ça reste quand même lui le dirigeant. Ouais. Ça reste lui qui est aux manettes de son entreprise. Et c'est pas parce qu'il nous a délégué des trucs qu'on récupère cette responsabilité-là. C'est des choses que tu expliques très bien d'ailleurs en formation. C'est que, après, la responsabilité, elle devient partagée, même après une délégation. Donc là, c'est exactement pareil. Et véritablement, quand j'ai des chefs d'entreprise qui se lavent complètement les mains de certains sujets, même s'ils ne sont pas forcément friands des sujets de la fiscalité, il y a un moment quand même où il faut qu'ils aient un peu conscience des choses. Ça peut leur permettre d'éviter de faire des bêtises.
Ok. Ok. Merci.
Voilà.
Merci pour ta présentation. Alors, j'ai vu que tu avais acheté 4 formats actions du catalogue. Le manager essentiel, management par objectif, système d'organisation réaliste et système de progression réaliste. Est-ce que tu as suivi toutes les formats actions? Parce que tu les as achetées de manière assez regroupée, je dirais.
Ouais. Alors non, je ne les ai pas toutes suivies pour l'instant. Je suis uniquement sur la LME parce que pour être très clair, lorsque j'ai commencé à suivre tes podcasts, ou après je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose et que j'aille plus loin sur le sujet parce que le discours sur les podcasts me plaise et il faut que je prenne le truc en main parce que ce sera quand même pas suffisant pour résoudre les problématiques que je rencontre.
Bien sûr.
Donc j'ai commencé par me dire bon allez sur le catalogue qu'est-ce qu'il y a, il y a ça, LME, ça a l'air d'être vraiment le truc, ça a l'air d'être vraiment la base, le socle et effectivement le plus complet. Donc
c'est ça.
Je me suis dit allez commençons par ça, le reste on verra. Et puis après d'offres packagées en offres promotionnelles, je me suis dit tiens je vais en profiter pour pour récupérer celle-là parce que je sens que j'ai besoin aussi de travailler sur ce sujet et également sur ce sujet. Et donc j'ai des mises un peu au chaud et parallèlement la formation LME, je pensais que ça allait me prendre quelque chose comme 2 mois.
Ouais.
Et en fait même si le temps de vidéo je pense peut rentrer en 2 mois,
ouais.
Si on intègre la phase de compréhension, la phase de passage à l'action, la phase de mise en place et puis les réajustements, et puis on revisionne les vidéos parce qu'il y a des trucs, on sent bien qu'on est passé un peu à côté, etc., etc. Non, en fait, je pense que ça vaut le coup de prendre quand même un peu son temps pour consolider les choses au fur et à mesure. Alors ça, c'est mon parti pris, hein. Je pense d'autres élèves pourraient le faire différemment, mais
Moi, effectivement, j'ai vu un peu tous les cas de figure. Le cas de figure que tu décris, qui est assez répandu. Alors, ce que j'ai souvent, c'est j'ai des gens qui d'abord comprennent le concept complètement, puisqu'en fait, très clairement, le manager essentiel, ça permet de mettre en place les fondamentaux du management, le 1-1, le feedback, la délégation et le coaching, et il y en a un qui est intermédiaire, qui est l'autonomie. En général, ce qui se met très vite en place, c'est le 1-1, le feedback et l'autonomie. Et puis, ensuite, pour la délégation, le coaching, ça peut être un petit peu plus long parce qu'il faut qu'il y ait un temps d'adaptation et de prise de confiance réciproque entre le manager et puis ses collaborateurs. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart des personnes font toute la formation, je dirais, au niveau théorique. Mais au niveau pratique, il y a la première phase qui est d'aller jusqu'à l'autonomie. Et ensuite, il y a une deuxième phase. Les gens reviennent dans la formation et ils font la délégation et le coaching. Et moi, ça ne me dérange pas du tout parce que la formation, elle est un peu construite comme ça, de toute façon. Elle démarre assez vite sur les 3 outils, je dirais, les plus rapides à mettre en place. Et ensuite, sur la délégation, il y a un petit peu plus de travail à faire. Et puis voilà, il faut bien maîtriser ce qu'il y a avant. La seule exception, c'est si on a un bras droit ou si on a envie d'avoir un bras droit, là, on peut aller plus vite. Mais c'est une autre formation qui s'appelle délégation express. Mais c'est vraiment dans le cas où on a envie de dégager une personne dans l'équipe. La formation, le manager essentiel, la délégation, elle se fait sur toute l'équipe, ce qui est un peu différent. Et tu peux tout à fait mettre en place ce management par objectif à partir du moment où tu as déjà mis en place tes 1-1 et tes feedbacks. Puisqu'en fait, management par objectif, c'est comment tu mets en place des objectifs à ton équipe avec un schéma, par exemple, trimestriel, où tu as des objectifs stratégiques par trimestre, etc. Donc,
ça, c'est bon, ça.
Je suppose qu'aujourd'hui, tu veux plutôt nous parler du manager essentiel.
C'est puisque bien ça, effectivement.
C'est celle sur laquelle tu as avancé le plus.
Exactement.
Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu pourquoi... qu'est-ce que tu avais envie de résoudre, en fait? Pourquoi tu as pris cette formation? Qu'est-ce qui t'a amené, déjà, à prendre cette formation, alors que tu écoutais les podcasts?
Alors déjà, le passage, la volonté de passer de l'état auditeur podcast à élève formation, clairement, c'est parce que au début, je sentais que j'avais des problématiques à résoudre en tant que chef d'entreprise, notamment sur plusieurs aspects, sur des aspects organisationnels, sur des aspects gestion de la ressource humaine. Et je sens bien que c'est un truc qui est pas forcément inné. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en fait, ça ne l'est jamais vraiment, je pense. Et clairement, j'avais un levier à basculer sur ce sujet-là. Donc, j'ai commencé un peu à me documenter de droite et de gauche, le confinement aidant aussi. Parce que tout ça, c'est des choses qui ont émergé un petit peu pendant le premier confinement.
OK.
Ça m'a complètement forcé, on va dire, à être en dehors de ma boîte et pas être constamment dedans. Et au niveau du podcast, alors les tiens, je les ai trouvés vraiment super intéressants. J'en avais écouté d'autres, mais bon, qui me parlaient un petit peu moins. Après, il y a eu d'autres aussi sur d'autres sujets, plus des sujets sur la croissance d'entreprise, des choses comme ça, où c'est quand même plutôt parallèle. Mais les tiens m'avaient vraiment beaucoup inspiré. Notamment, il y avait une série de 3 épisodes sur, de mémoire, les 10 lois du management.
Oui, les 22 lois du management, un truc comme ça.
Ouais, les 22 lois. Et pour le coup, j'ai écouté les 3, je me suis dit, pétard, c'est, il y a absolument rien, entre guillemets, d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est des évidences, c'est plein d'évidences, mais en même temps, je me suis dit, il a complètement raison de mettre l'accent sur ces sujets-là. Et oui, ok, c'est évident, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, ça, j'ai trouvé ça très, très inspirant. Et donc, après, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose. Je l'ai fait gamberger dans ma tête pendant un petit moment et j'ai profité, on va dire, notamment sur les vacances d'été où là il y a un vrai moment de repos,
ouais,
pour me dire allez, je vais passer à la rentrée, je passe à l'action et je me mets sur cette formation là. Et voilà. Et du coup, pour moi, les difficultés que je rencontrais au niveau entreprise et du moins mes attentes en commençant cette formation, c'était d'une part que une grosse difficulté, une grosse problématique que je rencontrais régulièrement, c'est que je me retrouvais à être hyper productif en permanence.
Oui.
Et en tant que chef d'entreprise, j'avais l'impression de ne pas faire mon job de chef d'entreprise véritablement. Et j'avais l'impression d'être encore resté à un niveau collaborateur comptable premium qui fait un peu le pompier, pour reprendre souvent tes expressions, à un moment, c'était un truc de dingue parce que j'avais mes collaboratrices très souvent. Elles faisaient avec eux devant mon bureau. Limite, j'aurais pu mettre un ticket pour rentrer, pour faire la queue. Et ensuite, je passais mon temps à résoudre des problèmes et je pouvais véritablement commencer à travailler à partir de 18h. Et c'était juste pas possible. À un moment donné, je pouvais pas être collaborateur qui résout tous les problèmes des autres et en même temps être chef d'entreprise aux manettes. C'est juste pas possible. Donc déjà, j'avais vraiment cette impression de glissement de compétences et justement, qu'il allait falloir que je délègue. Et c'est vrai que c'est bien beau parce qu'on se dit, ouais, il faut déléguer. Ouais, mais comment?
En fait, tu avais un statut de super expert, ce qui est d'ailleurs pas tellement étonnant parce que votre métier, c'est quand même un métier très technique. Et c'est vrai que le pouvoir, on peut le prendre comme ça. C'est-à-dire que même quand tu étais salarié, ce qui faisait que tu avais du pouvoir, c'était ton expertise technique. En plus, c'est validé par un diplôme. Donc, c'est quand même des choses qui sont, voilà, qui sont très tangibles, etc. Et on a tendance à s'appuyer sur ça. Et donc, quand tu es passé du stade de salarié au stade de chef d'entreprise responsable de tes anciens salariés, ben, il n'y avait pas tellement de raisons que tu laisses tomber ton statut d'expert, voire c'était un peu ton statut d'expert qui justifiait le fait que tu aies cette place. Et donc, tu avais forcément des raisons de continuer à compter sur ce pouvoir d'expertise pour assurer ta place, quoi. Et l'autre chose que tu dis qui est intéressante et que je rencontre souvent. Alors, le podcast en question, ça s'appelle 20 lois pour manager. Donc, c'est pas 10 lois, c'est pas 22, ouais. C'est 20. Et c'est en fait, je crois qu'il y en a une en plus. Je me souviens plus. Mais, ça peut, effectivement, un podcast, ça peut faire un déclic. Mais moi, ce que j'observe souvent, c'est ce que tu décris. C'est des chefs d'entreprise ou des managers qui continuent à produire comme tu le faisais, tout en étant d'accord avec le podcast, en disant, tiens, c'est vrai ce qu'il dit, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, il y a 20 lois, il suffit d'appliquer ces 20 lois. Mais en fait, qui passent jamais à l'action, parce qu'en réalité, bah, ils n'ont pas l'opportunité de passer à l'action. Ils sont complètement assaillis, comme tu disais, en décrivant tes collaboratrices, etc. Et une fois qu'ils ont terminé de répondre à tout le monde, ils se mettent à travailler sur leur travail, entre guillemets, personnel. Et donc, jamais, ils prennent réellement leur fonction de manager. Et en général, ça se dégrade assez vite derrière.
Ah, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de dramatique. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est rigolo parce que lorsque j'ai commencé le diplôme d'expertise comptable, où pendant cette phase-là, on a un statut d'expert comptable stagiaire, on est directement, on est sur un CDI avec un expert comptable qui nous chapeaute. Et on a régulièrement des journées de formation auprès de l'ordre. Et la première formation, un peu de présentation, la personne nous disait, vous savez, les experts comptables, alors en général, c'est d'excellents techniciens, c'est des commerciaux plutôt médiocres, et ce sont de très mauvais managers. Ouais. Et c'est complètement fou, parce que complètement vrai. et je pense véritablement que mon titre professionnel, expert comptable, le fait qu'il y ait expert dedans, et forcément, pas forcément m'enfermer justement sur une difficulté que tu exposes quand même très régulièrement sur ce côté, bah, en tant qu'expert, je suis légitime. Et donc vraiment, c'est comme ça. Notre titre professionnel s'assoit là-dessus, sur ce postulat de départ, bon, bah, en fait, il y a déjà un gros travail qui consiste à déconstruire ce postulat de départ.
C'est vrai. Et à devenir un chef d'entreprise, en fait.
C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est très souvent ce que j'explique aussi à des prospects lorsque je m'apprête lorsque je rencontre des chefs d'entreprise, c'est que je leur explique, bon, ok, je suis expert comptable, mais avant toute chose, je suis chef d'entreprise. Donc avant d'être spécialiste sur le droit fiscal, social et compagnie, avant toute chose, comme tout chef d'entreprise, j'ai un chiffre d'affaires à développer, j'ai des salariés et des fournisseurs à payer, j'ai une trésorerie à surveiller, etc., etc. Avant toute chose, et ça reste mon job de départ en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. Je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, ça.
Bien sûr. Et ton objectif doit être que d'ailleurs, finalement, les gens que tu emploies aient les compétences maximales justement pour te décharger de ton rôle d'expert. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois être capable de déléguer, en fait, tout en restant co-responsable, on est bien d'accord.
Tout à fait. Et pareil, justement, le côté un petit peu pernicieux de ce concept d'expertise comptable, c'est qu'on se dit, on y a passé du temps quand même à le décrocher, ce diplôme. J'ai passé un moment, de l'énergie, donc c'est quand même pas facile à avoir. On a ce sentiment un petit peu que ça y est, j'ai ce bout de papier, donc j'atteins ce statut et donc j'ai atteint un niveau de savoir, et donc c'est logique que mes collaborateurs ou collaboratrices qui n'ont pas ce diplôme-là, n'est pas mon niveau d'expertise, donc que je ne puisse pas leur déléguer des choses. Et que ce soit normal que je sois seul à avoir certaines attributions. Et ça aussi, je pense que c'est une grave erreur, et ça tue dans l'œuf la possibilité de déléguer. Donc pareil, ça c'est quelque chose à vraiment déconstruire. Et c'est un discours que j'ai commencé un peu à avoir ensuite avec mes collabs, notamment à la rentrée, en leur disant « Moi, je serai le plus heureux le jour où je ne vous servirai plus à rien.
» Oui, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. J'avais mis ça dans une présentation que j'ai faite il n'y a pas longtemps. L'objectif d'un manager, c'est de devenir inutile. Bon, alors, c'est un raccourci parce que évidemment, il a une énorme utilité et son utilité principale, c'est justement d'animer les équipes et c'est un job à plein temps. Mais de devenir inutile, l'idée, c'est ça. C'est en ayant cette tendance, cette obsession de la délégation, qu'en fait, tu réussis à développer ton équipe et ton entreprise, en fait.
Tout à fait.
Donc, ton premier problème, c'était le problème du super expert.
Ouais, exactement. Ensuite, après, une autre problématique, c'est effectivement la compétence management. Souvent, pareil, c'est quelque chose que tu décris très souvent, on a l'impression que c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, pour le coup, j'ai fait ça, on va dire, avec beaucoup d'intuition. Et je pense que j'ai essayé d'endosser plutôt le rôle du manager sympa, le gars un peu sympa. Surtout avant, mes salariés aujourd'hui, c'était mes collègues de boulot d'hier. Il faut quand même pas que je montre trop d'autorité hiérarchique parce que ça va être mal perçu. Et puis voilà, on va essayer d'être sympa pour justement les faire adhérer à ce que je vais ensuite mettre en place. Et ça, pareil, c'est quelque chose de dramatique à déconstruire. Et le manque de méthode, justement lié au fait qu'on s'imagine que c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, le fait de ne pas avoir de méthode fait qu'on tombe dans des tas de travers. Là, en l'occurrence, la grosse difficulté que j'ai eue à un moment donné, c'est de faire des feedbacks négatifs. Et vraiment, pareil, sur ta formation, tu donnes quelques exemples qui peuvent paraître un petit peu grossiers, parce que justement, c'est pour illustrer les choses. Mais en fait, il y a des moments, je me suis complètement retrouvé là-dessus. Je me suis retrouvé, par exemple, avec une collaboratrice avec une engueulade pas possible, à lui péter un scandale dans son bureau, et c'était la très mauvaise chose à faire, sans trop savoir. Et comme il n'y a personne qui nous apprend, ça c'est clair, par exemple, mon diplôme d'expertise comptable, tout mon cursus précédent, on nous apprend pas à l'humain.
Bien sûr.
Ça c'est clair.
En fait, ce que tu décris, parce que visiblement, toi, tu as quand même un profil assez relationnel de quelqu'un qui est plutôt orienté sympa avec les gens, etc. Donc, je dis souvent, le management, ça s'apprend, hein, c'est pas inné. Après, on a des facilités, on est plutôt quelqu'un, on a son profil. Bon, toi, visiblement, tu as un profil assez relationnel, etc. Mais ça veut pas dire que tu sais manager non plus. C'est pas parce que on est sympa et qu'on a envie d'être sympa qu'on sait manager non plus. Ce que tu viens de souligner, c'est assez classique. C'est la tendance du mec sympa qui accepte beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis, effectivement, ça s'accumule. Et le jour où il va aller faire ça, il va aller voir son collaborateur pour lui faire, alors c'est pas une punition, mais ça rebond en transe, ce sera allé tellement loin que ça va créer une énorme crise. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter en management. C'est beaucoup plus efficace de faire des feedbacks au fur et à mesure qu'on constate les problèmes et les ajustements qu'il y a à faire. Mais c'est pas la tendance naturelle de quelqu'un qui veut rester sympa. Parce qu'on se dit, ouais, mais si je fais des remarques, je vais être moins bien perçu, etc. Oui, certes, peut-être sur le coup, mais encore, il y a une méthode pour rester avec une bonne perception, etc. Mais c'est toujours mieux que d'attendre vraiment le dernier moment pour faire le feedback quand c'est trop tard, en fait, quasiment. Quand le collaborateur s'est mis dans la zone rouge totalement.
C'est exactement ça.
Ce que tu décris aussi, c'est un management diffus. C'est-à-dire que visiblement, il n'y avait pas de moment de management.
Ah oui, ça c'est certain. Et justement, c'est un point qui est vraiment clé aussi, un des points vraiment clés de ta formation, c'est justement le fait de rendre tangible les instants et la casquette manager.
Ouais.
Ça, je pense qu'effectivement, non seulement ça permet de se mettre en accord avec soi-même sur le fait que oui, j'ai du temps qui est dédié sur cette partie-là, parce que ça fait partie de mon boulot de chef d'entreprise. Mm-hmm. Et en plus, ça légitime les choses vis-à-vis des collaborateurs et sans forcément passer par la case super expert.
Mm, absolument.
Donc voilà sur cet aspect. Et sur une autre difficulté que j'ai rencontrée, et je sentais que ça allait devenir quelque chose de compliqué pour la suite, ouais. Dès lors que je vais vouloir essayer de faire grossir un petit peu mon cabinet, c'est ce sentiment d'avoir peur que les salariés me lâchent.
Pardon, peur ça, de quoi ? Excuse-moi, j'ai pas entendu.
Excuse-moi, le fait d'avoir peur que mes salariés me lâchent à un moment donné.
D'accord.
Qu'ils soient pas en accord avec moi et qu'ils décident de partir. Et on a une problématique assez récurrente, je pense qu'il n'est pas du tout exclusif à notre métier, mais on a du mal à recruter.
Ouais.
On a du mal à trouver des candidats qui matchent véritablement avec les attentes, On a du mal, il y a une vraie difficulté là-dessus. Et donc, on a un petit peu cette crainte de se dire, mon Dieu, si j'ai un salarié qui s'en va, eh ben, je vais avoir du mal à le remplacer.
D'accord.
Donc, en plus de ça, si il s'en va parce que je l'ai froissé, le cas typique, c'est le chef d'entreprise qui a peur d'un prud'homme, véritablement, par rapport à un salarié, qui va pas oser monter le ton parce qu'on s'imagine que le salarié va pouvoir sortir je ne sais quelconque incantation pour faire sortir un motif prud'homal valable et faire raquer son boss. Et très souvent, c'est un écueil que je vois chez les chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont pas oser, affronter ça, ils vont être très permissifs vis-à-vis des salariés. Et moi-même, j'ai pas forcément cette crainte de prud'homme, mais j'avais plutôt la crainte de pétard, s'il part à faire remplacer, ça va être compliqué. Ou alors la personne, je lui dis quelque chose qui lui plaît pas, elle va me poser un arrêt maladie de 3 mois, et puis moi je vais galérer, etc., etc.
En fait, c'est la prise d'otage du chef d'entreprise ou du manager par ses collaborateurs que tu es en train de décrire.
C'est ça.
Et en fait, alors le premier aspect, c'est celui que tu décris, c'est-à-dire que du coup, le chef d'entreprise n'ose plus être exigeant avec ses collaborateurs. C'est ça qu'on pourrait dire en résumé. Mais à la fois, en fait, il y a un double effet par rapport à ça. C'est qu'à la fois, il n'ose plus être exigeant avec ses collaborateurs, parce qu'il se dit, si ça frite trop fort entre nous, ben voilà, il va se mettre en maladie, il va partir, etc. Mais en plus, il ne leur fait pas confiance, c'est-à-dire qu'il ne leur délègue pas non plus. Hein, parce qu'il se dit, si je délègue, ça veut dire que c'est plus moi qui vais faire telle et telle chose, et donc si la personne part, la chose ne sera plus faite. Et donc ça, c'est une spirale qui fait que l'entreprise ne sera jamais performante. Et en fait, c'est aussi ce qui fait que les bons collaborateurs vont quitter l'entreprise. Parce que ça va devenir une entreprise dans laquelle on n'est pas exigeant. Et quelqu'un qui est un bon collaborateur, il a besoin d'exigence envers lui, mais aussi de voir de l'exigence envers ses collègues. Et puis, c'est une entreprise aussi où on délègue et où on lui confie des responsabilités. Sinon, le bon, il s'en ira. Donc, c'est toujours un mauvais calcul. Et en fait, la résolution de ce paradoxe, c'est de dire « mais non ». Si j'ai un bon système de management, si j'ai mis en place tout ce qu'il fallait, eh bien, quelqu'un qui s'en va, ce sera moins un drame, parce que déjà, l'équipe en elle-même sera autonome et donc pourra compenser le départ pendant un moment. Et surtout, j'aurai un process de recrutement et d'intégration qui fait partie de mon système de management et qui fait qu'on peut très vite remplacer la personne qui est partie. Et donc, il faut vraiment franchir cette étape que tu décris, que effectivement, je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup décrit dans les podcasts. Donc, c'est intéressant que tu le soulignes parce que c'est peut-être plus présent. Cette crainte, elle est peut-être plus présente chez les chefs d'entreprise que chez les managers. C'est la crainte du départ qui fait qu'en fait, on ne manage plus, finalement. On ne tient plus son rôle de manager.
Tout à fait. Et c'est vrai que ça peut vite être dramatique et créer des cercles vicieux où on se sent véritablement enfermé. Je pense que c'est une vraie prise d'otage, comme tu dis.
Ouais. Et je pense que toi, tu as eu cette prise de conscience parce que tu accompagnes des entreprises et que tu as dû le voir chez tes clients. Et donc, tu as dû te dire, mais chez moi, c'est pareil, en fait. Je fais comme eux.
Non, tout à fait. Alors, non seulement ça, mais en plus, à un moment donné, pour l'avoir vécu aussi il n'y a pas très longtemps, en fait, j'avais dû me défaire d'un salarié dans le cadre de ma licenciement.
D'accord.
Parce qu'au bout d'un moment, non, ça allait pas, en fait. Mm-hmm. En termes de performance, c'était pas bon. Et je me suis rendu compte, en fait, a posteriori, que ce mec, ça fait un moment qu'il est dans mon équipe, ça fait un moment que je trouve que ça va pas. Et en fait, pourquoi il est encore là? Et il est resté au sein de mon équipe pendant un an et demi. Et je me suis dit, non, en fait, là, je suis dans le faux, total. Donc là, maintenant, on va prendre le truc, on va arrêter d'avoir peur. Je l'ai pris en quatre yeux dans le cadre d'une procédure classique. Et non, je suis désolé, pour moi, vous ne faites pas l'affaire, ça ne fonctionne pas. Parce que telle raison, il n'y a aucun moment où il y a besoin de s'énerver pour exposer les choses. Mais c'est qu'à un moment donné, en tant que chef d'entreprise, j'ai des décisions à prendre et vraisemblablement, ces décisions, ça ne va pas aller avec le fait de vous maintenir dans mon entreprise. Donc, je ne vais pas vous garder juste parce que j'ai peur de ne pas pouvoir vous remplacer ou autre. Non. Et puis, peut-être que je vais avoir du mal à vous remplacer dans l'immédiat. Ok. Bon, ben, c'est pas grave. On va trouver d'autres solutions, mais je pense que c'est important, effectivement, de ne pas avoir peur.
Ce qui te donne cette assurance de le faire, c'est justement de savoir que, par ailleurs, ton équipe te suivra, que tu as développé la confiance, que tu as un système de management, que tu sauras recruter, etc. C'est vrai que quand on n'a pas tout ce recul qui est donné par un système de management, on n'a pas envie, quoi. On se dit, je suis en train de me créer un problème. Mais en réalité, le problème, il est dans l'entreprise et il est déjà là.
Ouais. Donc, et il grossit.
Bah oui. Ah oui, parce que voilà, c'est sûr, si tu t'occupes pas du management, le management s'occupera de toi.
Ouais, c'est exactement ça.
Alors, suite à ces trois constats, ton rôle d'expert qui était trop présent, ton management qui était trop diffus, et le fait que tu étais pris en otage, enfin, tu avais l'impression d'être un peu en otage par rapport à tes salariés, tu as décidé de faire la formation. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu les bénéfices immédiats que tu as eus. Et puis après, on verra peut-être les bénéfices plus long terme que tu as obtenus.
Les bénéfices immédiats, c'est vrai que... Alors, j'ai déjà eu un premier bénéfice, je pense, même avant de commencer cette formation.
Oui.
Parce qu'encore une fois, bon, j'ai décidé de franchir le pas pendant les vacances. Par contre, j'ai pas voulu commencer cette formation pendant les vacances. Pour moi, les vacances, elles sont faites pour autre chose. Et je me suis dit, je me prépare à la rentrée. Par contre, c'est parti. Et j'ai fait un genre de teasing à mes salariés en leur disant, attention, je vous préviens, ça rigole plus. À partir de la rentrée, je vais mettre des choses en place. Et vous allez voir que ça ne va pas du tout vous paraître naturel. Ça va changer par rapport aux habitudes. Mais vous allez voir, je pense que c'est quelque chose qui va nous faire aller dans le bon sens, aussi bien vous que moi. Et voilà. Et mine de rien, juste le fait d'avoir fait ce teaser, ça les a mis entre guillemets un peu en alerte. Mm-hmm. Et un petit peu dans l'attente de ça. Et je pense que ça, déjà, ça a commencé à préparer les esprits à du changement. J'aurais dit que c'était du changement en termes de management. J'aurais dit d'ailleurs que j'avais commencé une formation de management sans forcément m'étaler sur les détails. Mm-hmm. Et voilà. Et pour le coup, ça allait très bien se passer parce que, enfin, je trouvais ça plutôt intéressant. C'est que mi-septembre, j'ai fait mes entretiens de fin d'année.
D'accord.
Donc, historiquement, je préfère les faire à la rentrée plutôt qu'avant les congés. Parce que, général, mois de juillet, on sort tout juste d'une période difficile avec les bilans des entreprises.
Et, oui.
En général, on est plutôt fatigué à cette période-là. Septembre, en général, est plus propice pour les entretiens annuels. Et donc, pour le coup, ça a été, cet entretien annuel a fait l'objet justement de l'entretien de la mise en place d'un.
En fait, juste, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a peut-être des experts comptables qui nous écoutent. Tu fais tes entretiens de fin d'année en septembre parce que la grosse période, parce que vous avez des saisonnalités assez fortes, hein, les experts comptables, elle vient d'être passée, en fait, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ben, disons que, en fait, on avance ce qu'on appelle la période fiscale qui court jusqu'à fin mai, début juin.
Ouais.
Et puis, quand on arrive à fin mai, début juin, en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas encore à décélérer parce que il y a des choses qu'on a temporisées qui reviennent avec un peu d'élan au mois de juin. Donc, ça tire sur le mois de juin et mi-juillet. Et là, on commence tout juste à avoir le bout du tunnel. c'est le moment où on essaie de plier et boucler les derniers trucs avant de partir en congé. Et donc, d'expérience, à une époque, j'avais fait les entretiens annuels au mois de juillet et je me suis rendu compte que c'est des choses que je faisais à l'arrache. Et, oui. Et je trouvais pas ça satisfaisant. Je me suis dit, non, mais c'est pas grave. En fait, tout le monde va partir en congé. Et puis, quand on revient, on fait les entretiens et on est quand même plus dispo.
C'est pas mal. C'est intéressant. Faire les entretiens de progrès en septembre.
Et donc voilà, du coup, ça a été l'occasion d'être un petit peu plus précis sur des choses que j'allais mettre en place en leur disant, en fait, ça va venir un peu au fur et à mesure et au fur et à mesure de la formation où je suis. Mais déjà, on a commencé par les 1-1, on a commencé à leur décrire exactement comme tu le proposes dans ta formation. Ça a été hyper clair. Et en fait, alors, j'ai peut-être eu de la chance, j'en sais rien, par rapport à d'autres témoignages en tout cas, mais j'en ai aucune qui s'est montrée réticente.
D'accord.
Donc, il y a tout le monde dès le départ qui a joué le jeu, et ça, je pense déjà, c'est un point important à signaler, c'est que, en fait, je pense que fondamentalement, les gens restent quand même plutôt volontaires. Je suis pas sûr que, de prime abord, ce soit pas la majorité qui soit réfractaire à ce genre de.
Non. Franchement, c'est assez rare. Alors, après, il y a des situations particulières. Au contraire, une équipe, elle ne peut que bien vivre l'intention de son manager de s'améliorer dans le domaine du management. En général, on s'en rend pas compte. On a l'impression que nous, on souffre, mais notre équipe, elle souffre aussi. C'est-à-dire que notre équipe, elle a besoin d'un chef quand même. Et pas juste d'un copain ou d'un expert, d'un chef.
Tout à fait. Et ça, je pense que justement, cette mise en place dans les bénéfices premiers de cette formation, c'est que ça a installé justement le fait que mes collaboratrices, à un moment donné, se disent « Tiens, Gwendal, il est en train d'asseoir quelque chose qui va permettre à la structure de grossir. » Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, en fait, nos salariés, ils ne restent pas juste enfermés sur une visibilité leur poste de travail. Pour eux, c'est quand même important de pouvoir jeter un coup d'œil, même s'ils ne sont pas forcément aux manettes, de voir en fait le bateau dans lequel ils sont. Ce n'est pas un bateau qui s'apprête à couler. Ce n'est pas un bateau qui va vers des difficultés, enfin qui va peut-être aller vers des difficultés, mais qui va être, pour reprendre de tes expressions que j'aime beaucoup, qui va être antifragile. Là techniquement mes salariés, c'était leur première impression, c'est que Gwendal il est en train de mettre en place des trucs qui va nous permettre de mieux organiser le travail de chacun, de rendre des choses plus fluides, notamment par le biais du management. C'était quelque chose de très très bien perçu dès le départ, et la relation de confiance qu'on peut créer dans le cadre des 1-1, notamment de par leur aspect répétitif, donc vraiment toutes les semaines, c'est un délai qui est court, mais en même temps qui n'est pas trop court non plus, mais qui permet quand même d'assurer une récurrence et donc justement de créer un tunnel de confiance.
Tout à fait, oui.
Ça, c'était vraiment quelque chose de très, très positif. Et justement, dès lors que cette base est mise en place, là, oui, effectivement, on peut commencer à plugger des choses par-dessus. C'est exactement ce que tu... Là, j'en entends rien. Hein, c'est exactement ce que tu exposes aussi en formation et dans tes podcasts. J'ai ce terreau mis en place. Mais si ça, c'est pas mis en place, effectivement, si inutile de parler de délégation si on n'a pas mis en place un.
C'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Le 1-1, c'est vraiment la base. Et c'est ça qui va tout faciliter. C'est clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais créé la formation, une plus courte, qui est 1-1 Express, parce que c'est le minimum vital du manager. Quoi. S'il n'a pas ça, le reste sera très difficile.
C'est clair.
Tout ce qu'on vient d'évoquer, d'ailleurs.
Quelque chose que je constate quand même, c'est que, en fait, c'est assez rarement mis en place dans les entreprises.
Ah oui, oui.
Et en fait, c'est curieux parce que c'est quand même tout simple, c'est quand même tout bête. C'est marrant, dans mes salariés, donc j'ai une contrat en alternance, j'ai eu l'occasion justement d'échanger après avec une de ses profs. Et une des inquiétudes de cette salariée quand elle a commencé, c'est que pendant les phases après d'entretien, avant son démarrage, ça a été mais au fait, est-ce qu'on pourra faire des points de temps en temps ? Et je lui ai dit, vous savez, on va faire des points de temps en temps, ça va être une fois par semaine, et ce, jusqu'à la fin de nos relations de travail. Et elle a trouvé ça top. Et lorsque j'ai exposé ça à sa prof, et pareil, la prof a trouvé ça vraiment trop bien.
Ouais, ouais.
super quoi, de mettre ça en place. Donc, c'est ça aussi, c'est quand même très satisfaisant en tant que chef d'entreprise qui se dit bon allez, je vais essayer de m'améliorer en management. Et ben cet outil là, ça permet de mettre quelque chose de concret en place et qui est perçu comme une excellente idée.
Et pas que chef d'entreprise. Hein. Moi, je le vois, par exemple, dans la fonction publique, où j'ai eu quand même beaucoup de retours d'expérience. En fait, très souvent, malheureusement, hein, et j'ai des retours multiples, il n'y a pas du tout de management en place dans le secteur public, l'hôpital, etc. Les gens arrivent, ils ne savent pas qui est leur chef, ils ne le rencontrent jamais, sauf si vraiment il y a un problème. Et c'est catastrophique. Il suffirait que ce petit outil-là soit mis en place à tous les niveaux, mais déjà la perception initiale de la personne qui va venir travailler va être complètement différente, et donc ses performances. Et je suis d'accord avec toi. Après, le 1 à 1, il faut quand même le mettre en place de la bonne façon. Il ne faut pas que ce soit un entretien de flicage, il ne faut pas que ce soit le bureau des plaintes, etc. Et c'est pour ça que, là aussi, le minimum vital, c'est de le mettre en place et que ce rendez-vous existe, mais après... il faut qu'il soit bien, faut qu'il soit bien structuré, que ce soit le salarié qui puisse s'exprimer, etc., etc. C'est important.
Tout à fait. Alors ça, et qu'il soit aussi bien orienté, ça fait partie aussi d'un de tes chapitres, notamment sur l'autonomie.
Ouais.
Effectivement, ton 1-1, tu vas pouvoir l'orienter pour essayer de viser juste, parce qu'effectivement, ça doit pas être un entretien machine à café.
Et ça doit pas être non plus l'équivalent de ce que tu vivais avant de le mettre en place, qui était ton rôle d'expert. C'est-à-dire, c'est pas j'arrive et j'ai en face de moi l'expert à moi tout seul pendant 30 minutes. Hein, le salarié doit pas se dire ça non plus, et tu dois bien lui faire comprendre.
C'est vrai.
Donc c'est un peu subtil. Il y a un peu de subtilité, mais voilà. Avant de mettre de la subtilité, faut déjà mettre en place l'outil.
Bien sûr. Et puis effectivement, en fait, il y a une vraie courbe d'apprentissage. On dirait pas comme ça. Et quand tu expliques les 1-1, notamment en podcast, ça paraît assez simple et assez bête comme truc. Et effectivement, c'est pas non plus quelque chose d'hyper compliqué. Mais par contre, c'est important de le poser correctement. Parce que sinon, effectivement, il va y avoir un espèce d'essoufflement. Et si on sait pas dans quel sens l'orienter, je pense que le 1-1 peut par exemple très vite déraper en instant où on fait un point sur les dossiers.
C'est ça.
Et au début, par exemple, les collaboratrices, elles pensaient que c'était un petit peu ça. Et donc, je leur disais non, mais là, je m'en fiche de savoir si on a avancé sur le bilan d'un tel ou d'un tel. Non, le 1-1, il n'est pas fait pour ça.
Tout à fait.
Le suivi de la production, on a des tableaux de suivi, on prend un autre moment si jamais, mais le 1-1, il est pas là pour ça.
C'est tout à fait vrai.
Ça, c'est important d'avoir à l'esprit, quoi.
Et c'est pour ça que c'est important après de dynamiser le 1-1. La première phase, c'est ce que tu dis, c'est de le mettre en place. Puis après, et c'est tout l'objet de LME que tu suis, la formation, c'est qu'après, ça devient ce que j'appelle un dynamique, c'est-à-dire qu'on met des étages à la fusée et on ne s'arrête jamais d'améliorer le processus.
Et ça, justement, pareil, cette première étape, ensuite, il y a un élément qui est venu se greffer assez... qui était assez concomitant, notamment au feedback, c'est la partie attribution, notamment avec les fiches de mission.
Oui.
Ça, pareil, j'ai eu l'impression d'être un magicien lorsque j'ai exposé ça à mes collabs, parce que vraiment, c'était le truc totalement inédit qu'on faisait jamais. Quand on en parle avec d'autres, non, en fait, c'est quoi une fiche de poste, en fait, ça reste un concept, on va dire, un petit peu nébuleux, mais voilà. Et non, en fait, alors c'est pas tout à fait une fiche de poste, donc quoique ça peut s'y apparenter. La fiche de mission, elle va quand même vachement plus loin.
Ouais,
ça,
ouais.
Pareil, les collaborateurs, ça leur a vachement plu, ça.
Mmh.
Et moi-même, ça m'a justement vachement plu, parce qu'après, ça m'a permis d'exposer, on va dire, ces aspects, et à chacune, et ensuite en réunion globale.
Tout à fait.
Et le fait d'avoir cette visibilité, ok, pourquoi est-ce que moi je suis là, et pourquoi est-ce qu'un tel est là, et pourquoi est-ce qu'une telle est là, ça légitime ensuite vachement l'organisation hiérarchique, d'une part, et d'autre part, le fait que non, on va éviter les glissements de compétences.
Mmh. Tout à fait.
Ça, à mon avis, ça a résolu une véritable douleur que j'avais dans ce que j'avais expliqué au-dessus. C'est ce glissement de compétences où j'ai l'impression que, non, en fait, je me retrouve à être chargé sur ça. Non, en fait, maintenant, ça, c'est votre job.
Mmh. Oui, tu as posé ta structure,
en fait. C'est ça. Et si ça devient, si votre job il glisse vers moi, ben vous voyez, mon job à moi, ben je pourrais pas le faire. Et après le reste, la réunion, le temps de préparer un peu toutes les équipes, allez, on va dire dans les deux semaines qui suivent, ça peut être fait. Dans le premier mois, en fait, on peut avoir déjà ces outils qui sont mis en place.
Oui, complètement. Oui, bien sûr.
Et enfin, le troisième point, on va dire que j'ai trouvé très très bénéfique sur cette formation LME, c'est que alors ok, on parle de management, mais tout n'est pas orienté au niveau du relationnel manager-salarié, enfin manager-collaborateur, mais il va être aussi du manager en tant qu'individu seul, et notamment par rapport à la structuration de son temps. Et ben le fait de lorsqu'on a cette habitude d'être un super expert, on a justement l'impression que si on n'est pas un productif, et on ne sert pas à grand chose. C'est totalement faux. Et le fait de formaliser, de rendre tangible ces temps dédiés au management en instaurant justement des routines qui sont clairement dédiées à ça, je me dis, là, je consacre 2 heures à tel moment de mon planning pour faire du management, et c'est normal parce que ça fait partie de mon job.
Ouais.
J'ai pas à rougir de ça, j'ai pas à me dire, ah, je suis un tir au flanc parce que je suis pas en train de faire la déclaration de TVA d'un tel.
C'est ça. Et d'autant que peut-être que toi, tu travailles en facturant tes heures, peut-être à tes clients, où il y a une notion peut-être de suivi d'heures dans ton entreprise.
Parfait.
Et parce que j'ai déjà vu ça aussi chez d'autres experts comptables que j'ai, avec qui j'ai travaillé et que j'ai, à l'époque que j'ai suivi, c'est qu'en fait, eux, les temps de management, en fait, c'était considéré comme des temps morts, en fait. C'est-à-dire des temps qui servent à rien parce qu'on facture pas le client. Sauf que je disais, mais ça va permettre justement... Et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le temps commercial dont tu parlais, c'est-à-dire trouver des nouveaux clients, etc. Et à partir du moment où tu deviens chef d'entreprise, justement, tu n'es plus soumis à cette contrainte de vendre ton temps. Au contraire, il faut que la valeur ajoutée que tu vas dégager soit décorrélée du temps que tu passes. C'est très, très important de comprendre ça, et même pour un expert comptable. Alors après, ce qu'on me disait, mais non seulement quand je rencontre mon collaborateur, je ne peux pas facturer la demi-heure pendant laquelle je la rencontre, mais lui non plus. Ah, je dis oui, mais les bénéfices, ils vont être visibles à plus long terme. Parce que sinon, ça justifie de ne pas faire de management, en fait, finalement, cette manière de voir la productivité de l'équipe.
Et ça, c'est l'aller simple pour le burn-out, véritablement.
Ah, ça, c'est cool, c'est clair.
De pas justement entretenir ça. En plus, d'une certaine manière, ça crée des temps de respiration. Donc,
bien sûr.
Ça fait du bien aussi, ça permet effectivement d'être plus efficace. Mais effectivement, il y a un moment donné, justement, je me disais, pourquoi je me prends la tête? À la rigueur, je vais tout plaquer et puis je vais me mettre tout seul. Si j'ai tant de mal que ça à déléguer, mes salariés ils sont pas foutus de faire telle et telle chose, en fait je vais tout plaquer, je vais faire ça tout seul.
Ce que tu décris, c'est le raisonnement de, par exemple, de beaucoup d'artisans qui décident finalement de devenir et en réalité ils ont choisi d'être entrepreneurs pour être libres. Et puis finalement, ils se retrouvent avec ce raisonnement-là à travailler en général plus, beaucoup, beaucoup plus qu'un salarié, et sans forcément avoir des espoirs de gagner beaucoup d'argent, parce que finalement, ils saturent totalement leur temps et ils ont une corrélation très forte entre les revenus qu'ils génèrent et le temps qui passe. Donc ça, c'est l'esclavagisme invisible de l'entrepreneur qui délègue rien et qui veut pas recruter.
Tout à fait. Et à mon sens, c'est d'autant plus dramatique pour un chef d'entreprise qui est vraiment le pilote de son véhicule, parce que en travaillant que sur l'aspect technique et productif, tu te donnes pas de visibilité sur l'avancée de ta boîte, et à un moment donné, tu seras obligé de subir les remous, le contexte actuel. Et on est une parfaite illustration, c'est qu'en fait, si on est resté constamment avec le nez dans le guidon à faire de la prod, on finit par lever les yeux, à se dire, mais tiens, il n'y a plus de boulot là, comment on fait ? Et justement, on l'a pas entendu. participer et on subit véritablement la situation. Et en subissant ça, ben, en fait, on n'a pas fait son job de chef d'entreprise.
Tout à fait. Est-ce qu'il y a... Alors ça, c'était les bénéfices court terme que tu nous as décrits. La relation de confiance mise en place avec Léana, le fait que tu as pu réaliser très rapidement le cadrage des attributions de chaque personne, c'est ce qu'on fait en deuxième dans la formation, le fait aussi que en parallèle tu mets ton management en place, mais tu t'organises aussi avec un vrai agenda de chef d'entreprise, c'est-à-dire y compris avec des moments de contributeurs individuels quand même, parce qu'on en garde, mais on voit lesquels. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à plus long terme? Parce que maintenant, tu as un petit peu plus de recul sur la formation.
Ah oui, effectivement, il y a des choses qui effectivement se mettent à fleurir, on va dire, au bout d'un moment. Par contre, oui, effectivement, il y a quand même cette phase-là où il faut laisser reposer un peu la patte, on va dire. Déjà, quelque chose que j'ai commencé aussi à ressentir après 2-3 mois, c'est une véritable appétence qu'ont commencé à avoir mes collaboratrices dans une capacité à être autonome dans leur travail.
Ouais.
Et il y a une vraie volonté. Ça, j'ai trouvé ça vraiment génial de faire ce constat, parce que quand on voit tes vidéos de présentation sur le site où tu expliques que tes collaborateurs, les personnes avec qui tu travailles vont te prendre du travail. Mmh. Et tu te dis comme ça, bon allez, ok, le mec il me fait un discours commercial. Mais en fait, quand j'ai commencé à voir que mes collabs ont commencé à faire ça, je me suis dit c'est génial. En fait, c'est juste trop bien. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de commencer cette formation? Vraiment, je pense que je suis dans la bonne voie. Parce que là, véritablement, les collabs, ils ont envie de justement d'être autonomes, parce que l'autonomie, c'est l'occasion que eux ont pour montrer un petit peu leur fait d'armes. S'ils sont constamment dans un tunnel avec quelqu'un qui leur dit maintenant tu fais ça comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, en étant constamment derrière et en étant uniquement sur de l'action très courte et sur du micromanagement, en fait, non, en fait, les collaborateurs et collaboratrices n'ont pas ce sentiment d'autonomie, donc d'épanouissement, et donc ils n'ont pas cette opportunité de nous surprendre. Je pense que ça, c'est une très belle chose, et je l'ai vécu à un moment donné en 1-1, où ma collaboratrice maintenant référente, qui fait office de bras droit pour moi aujourd'hui, elle a commencé à mettre en place des choses, des outils de suivi. Je ne m'attendais absolument pas à ça, et parce qu'elle a eu cette autonomie-là, parce qu'elle a eu la possibilité de s'exprimer en direct, de mettre en place des trucs de son côté en direct, et ensuite de m'en parler en 1-1, je me suis dit, ouais, en fait, là, ça y est, la bonne dynamique est lancée, et c'est comme ça que les choses doivent avancer, en fait.
Alors, je suis content que tu parles de ça, parce que effectivement, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Moi, pour parler de la formation, je dis souvent, et il va se passer un truc qui est incroyable, c'est que vos collaborateurs vont commencer à vous prendre du travail. Et c'est même plus vous, même pas vous qui allez déléguer des choses, c'est eux qui vont créer des choses par eux-mêmes qui vont prendre du travail. Et j'ai été pas mal critiqué là-dessus en me disant « Ouais, bon, ça, c'est du pipeau, machin, etc. » Mais c'est pourtant, tu vois, ce que tu viens de me décrire comme révélation, c'est quelque chose que je vois en permanence chez les gens qui ont mis en place les outils. Parce qu'en réalité, en fait, c'est toi qui as généré ça. Hein, parce que c'est toi qui as créé l'environnement, qui a créé, je dirais, l'écosystème pour que ça se produise. Mais on est quand même toujours toujours surpris quand ça arrive. Parce qu'on a l'impression que c'est notre collaborateur qui change complètement et tout d'un coup qui s'ouvre et qui se met à faire ça. Et tu verras que t'es pas au bout. C'est-à-dire que ce qui va se passer ensuite par la suite, c'est que tu vas prendre un vrai plaisir, non plus à faire, ni à faire faire, mais un vrai plaisir à écouter tes collaborateurs te décrire à quel point ils ont enrichi la valeur ajoutée de ton entreprise tout en y prenant du plaisir. Et quand tu es arrivé à ça, là, tu es vraiment dans la quintessence, pour moi, du plaisir d'être chef d'entreprise ou d'être manager. C'est d'être à la tête d'une équipe de personnes qui développent de la valeur ajoutée juste sans presque que tu aies besoin de leur demander, en fait, finalement.
C'est ça. C'est exactement ça. Et vraiment, Il y a une corrélation directe entre les outils mis en place dans le cadre de cette formation et justement cette arrivée à ce résultat. Mmh. Ça c'est assez bluffant, mais encore une fois, comme tu dis, il n'y a absolument rien d'ésotérique là-dedans. On ne nous apprend pas une formule magique dans ta formation, c'est sûr. Mmh. Alors c'est juste des outils en fait qui viennent s'autoclaver très naturellement et qui vont créer justement des opportunités pour les collaborateurs à essayer encore une fois de faire preuve un peu d'inventivité, de sortir un peu des sentiers battus. Et puis il y a des moments en fait on se plantait, hein, mais le 1-1 va être là aussi, et les feedbacks sont là aussi pour recadrer les trucs avant voilà, de tomber dans un véritable écueil. Donc c'est hyper bien. Et il y a cette dimension de volontariat vis-à-vis des salariés qui vient se construire.
Et ce que tu dis là, ce que tu viens de dire, c'est important aussi, c'est que le 1 à 1, c'est le fait de se voir souvent et de beaucoup communiquer, ça permet de voir la vraie différence qu'il y a entre une erreur et des dégâts. C'est-à-dire qu'une erreur, c'est ce qui est nécessaire de faire pour apprendre. On n'apprend pas sans faire d'erreurs, ça n'existe pas, on fait forcément des erreurs pour apprendre. La question, c'est est-ce que ça crée des dégâts ? Et c'est vraiment la différence qu'il faut faire, j'en parle dans la partie sur la délégation, c'est que, oui, tes collaborateurs doivent faire des erreurs, mais toi, tu es là aussi avec eux pour faire que ça ne fasse pas de dégâts, mais que ça engendre des progrès. C'est juste la petite nuance qu'il faut absolument avoir. Mais celle-là, on l'a vraiment quand on est passé à la phase après l'autonomie, effectivement. Et d'ailleurs, cette attirance, je pense, pour l'autonomie de nos collaborateurs, elle est bien présente chez les managers. Ils ne savent juste pas comment faire parce que un des podcasts, je crois que le podcast le plus écouté d'outils du manager, c'est « Faites de vos collaborateurs des héros ». Donc je pense quand même que c'est quelque chose qui parle à la base, même si ce n'est pas naturel, c'est quand même quelque chose pour lequel le manager a un intérêt. C'est pour ça que c'est très intéressant que ton témoignage à ce titre-là est intéressant.
Mais justement, ce côté fait de vos collaborateurs des héros, je l'ai vécu mardi, pas plus tard que mardi dernier, mais un à un et mardi matin. Mmh. Une collaboratrice qui a commencé vraiment en janvier, donc c'est vraiment tout frais, qui on lui a confié, on va dire, une tâche alors qu'on confie jamais en fait à des novices. En l'occurrence, c'était un paramétrage un petit peu compliqué sur un dossier, genre de truc. Normalement, on faut un peu de bouteille pour maîtriser le logiciel, pour maîtriser les aspects légaux, etc., etc. Et en fait, alors parallèlement à ça, ça a été une orientation parallèle que j'ai prise avec tes formations, c'est que je me suis mis à faire des vidéos tutos au niveau des différents process. D'exécution de plusieurs types de tâches, mm-hmm. pour m'aider justement à pas forcément passer tout ce temps-là à chaque fois avec une nouvelle personne. Et donc, la personne, elle peut suivre cette vidéo, peut la re-suivre au besoin. Comme ça lui permet de voir, ok, pour paramétrer un dossier de paye, il faut faire comme ça, pour faire un bulletin de paye, il faut faire comme ça, etc. etc. Mmh. Parce qu'on a des logiciels qui sont quand même pas forcément hyper intuitifs au début. D'accord. Et le fait de pouvoir lui dire, allez, tu regardes cette vidéo et maintenant tu vas faire ça. Et vas-y, montre-moi. Et puis surtout, sache une chose, c'est que tu as le droit de te planter. Mmh. Tu as le droit de te planter, c'est pas un problème. Je m'attends pas à ce que tu y arrives à 100%. Je serais même très surpris que tu arrives à 100%. Mais allez, vas-y, fais, montre-moi. Mais non seulement elle me l'a fait, mais elle me l'a fait nickel.
Ouais.
Et ça, c'est juste génial. Parce que ça, c'est le genre de chose, là, encore une fois. Faire ce type de tâche, je demande à ce que la personne, au moins, là c'est création d'un dossier de paye, la personne n'a jamais fait de paye de sa vie.
Oui.
Elle est là depuis 2 semaines dans mon cabinet, je lui ai confié ça, c'était le truc quand même plutôt risqué. Non, en fait ça marche, ça fonctionne, mais parce qu'effectivement il y a eu ces outils au départ, lorsqu'elle a intégré mon cabinet, j'ai commencé à mettre en place les 1-1 aussi avec elle. Elle a raccroché les wagons là-dessus. Mmh. Le fait qu'il y ait justement ces différents outils, elle est rentrée, on va dire, dans ce système. Quand tu parles de système de management, je trouve ça très, très vrai. C'est que vraiment, faut imaginer le truc comme un peu une machine qu'on a construite. Et puis après, les nouvelles personnes qui vont travailler avec nous, elles vont rentrer dans ce système-là. Bon, c'est pas de la machination non plus, hein, mais pour rentrer dans ce système, et puis elles vont se rendre compte que les choses, elles fonctionnent, elles avancent, et on gagne un temps de folie.
Et du coup,
c'est fluide.
Et du coup, t'es plus, toi à la fois, tu peux faire ton vrai rôle, tu peux être exigeant, t'es plus pris en otage par tes collaborateurs. Eux non plus, d'ailleurs, les bons, ils vont pas partir parce qu'ils sentent que c'est un système qui fonctionne, etc. Et du coup, ça te libère, toi, en tant que chef d'entreprise, déjà au niveau de ton temps passé, mais aussi au niveau des soucis que tu as, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont ce souci d'avoir des salariés qui les quittent. À partir du moment où tu as confiance dans tes personnes et dans ton système de management, tu es aussi libéré de ces soucis-là. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit, au niveau de temps de travail, est-ce qu'il y a eu des modifications au niveau du temps passé dans l'entreprise? Parce que je crois qu'au début, tu me disais, j'étais en train de m'acheminer vers le burn-out, en fait.
Ouais, mais il y a vraiment, j'ai vraiment une phase dans ma carrière où je suis vraiment pas passé loin, je pense, d'un vrai bon gros burn-out qu'on n'a pas envie d'avoir, parce qu'au début, vraiment au tout début, quand j'ai commencé à travailler en tant que collaborateur, pas en tant que chef d'entreprise, j'avais tapé, je tapais à un moment donné du 80 heures par semaine.
Ouais. On a tous connu.
Et en fait, c'est juste pas bon.
Non.
Du tout. Et c'est là où on se dit, bon, après, en étant arrivé à l'épuisement, on se dit, en fait, c'est surtout pas ça que je dois continuer de faire. Donc, on essaie de trouver des solutions autres. Bon, après, j'ai réussi à aplanir les choses. En moyenne, voilà, jusqu'à présent, je bossais à peu près 10 heures par jour, du lundi au vendredi. Je prenais un peu de rab le week-end. Donc, ça fait une moyenne, on va dire, à 55 heures par semaine. Mm-hmm. Ce qui est déjà beaucoup. Le pire, d'ailleurs, ça, c'est, je pense que les chefs d'entreprise, je pense que ce serait important qu'ils aient ça en tête. Très certainement les managers salariés, mais ça, pour le coup, c'est un domaine que je connais un peu moins. Mm-hmm. C'est que vraiment, il n'y a aucune gloire à bosser des heures de dingue.
Mm-hmm. Je dirais même que c'est plutôt un mauvais signe. Hein. C'est plutôt un gros problème. Hein.
C'est exactement ça, mais en même temps, il y a une très grosse déviance où on a le sentiment que on a presque un peu honte de se dire bah non, en fait, moi, je travaille 40 heures par semaine.
Moi, j'ai plutôt honte quand je travaille trop.
Ouais.
Et donc, à un moment, tu étais à 80 heures, ensuite à 55 heures. Et c'est ton rythme actuel, ça,
Non, actuellement, je tourne entre 40 et 45 heures par semaine.
Ah bah ouais, c'est pas mal, hein. Ça veut dire que tu te rends compte, ça veut dire que tu as divisé presque par deux ton temps de travail entre les 80 heures que tu bossais quand ça vraiment t'étais géré au taquet. Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise et tu travailles la moitié de temps. C'est fou, c'est complètement fou.
Et ça, alors ça passe vraiment par une grosse phase d'apprentissage. Et en fait, j'avais commencé à réduire drastiquement, on va dire, mon temps de travail, notamment avec la naissance de ma fille, parce que j'ai ma fille qui est née le 22 novembre 2019, et donc c'est assez récent. Quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas avoir une vie de famille qui équilibrée. Et en même temps, continuer à bosser comme ça. Sinon, en fait, je ne vais jamais l'avoir de la semaine, je vais l'avoir que les week-ends. Ouais. Et je n'ai pas envie de ça.
Et même ta vie au travail ne sera pas équilibrée non plus en elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, le mieux, c'est d'avoir une vie privée, une vie professionnelle équilibrée. Mais passer 16 heures par jour, pas 16 heures, j'ai fait une moyenne sur 5, mais 80 heures par semaine, les week-ends compris, etc., même dans le cadre du... Même si on n'a pas de vie privée, qu'on a choisi de ne pas avoir de vie privée, bon, ça me paraît curieux, mais ça existe peut-être. Mais ce n'est pas bon non plus, parce qu'on n'a jamais même d'oxygène, et c'est impossible d'avoir une vie professionnelle épanouie sans aucun recul. Quoi.
Ouais, complètement. Et ça, c'est très urgent de prendre ça en main, en fait.
Oui, c'est limite une pathologie hein, quand on en est là.
Ah oui, vraiment, je pense que j'étais à un stade de workaholic. Ouais. Comme je pense aussi beaucoup de chefs d'entreprise, et le fait d'être justement aux manettes à son propre compte, il y a un côté aussi très très galvanisant, parce que encore une fois on est un petit peu c'est nous le big boss, c'est nous qui prenons les décisions à tout niveau, on a accès à tout, il n'y a pas de limite, donc il y a un côté un peu enivrant par rapport à ça,
et c'est justement le switch qui est intéressant, parce que moi, je l'ai vécu, et c'est pour ça que cette histoire de fête de vos collaborateurs des héros, elle est importante. C'est le switch où, justement, tu passes à cette notion de c'est moi qui fais tout, c'est moi qui décide de tout, je suis champion du monde, etc. à non, en fait, je gère une équipe de champions du monde qui est beaucoup plus enrichissant et galvanisant d'ailleurs.
Alors, tout à fait. Là, je te rejoins vraiment à 300%. La vraie finalité, elle est là.
Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont vraiment plu dans la formation, peut-être plus au niveau de la formation en elle-même, et que tu voudrais dire aux auditeurs, à ceux qui hésitent à passer le pas?
Alors, sur la partie formation, je trouve qu'un truc qui est quand même très, très appréciable, c'est que c'est très séquencé. C'est très séquencé et très structuré, et ce qui fait que c'est plein de petites étapes. Tes vidéos, je pense que la plus longue, elle doit faire une demi-heure. Dans cette formation, quelque chose comme ça. Mais c'est plus souvent des vidéos d'une dizaine ou quinzaine de minutes, quoi. Donc, il n'y a pas ce moment où on se dit, allez, je vais passer une demi-journée complète ou une journée complète. On peut le faire. C'est pas de souci, mais on n'est pas obligé de faire ça. Et je pense que ça peut être une inquiétude pour certains de se dire, ah, mais ça va être compliqué parce que je vais devoir caser du temps déjà que je suis constamment charrette sur mon agenda. Comment est-ce que je vais faire pour suivre mon truc? Et clairement, d'ailleurs, ça aussi, je pense, conseiller ça à des personnes qui veulent se mettre sur ta formation. Vraiment, il est hors de question de suivre cette formation-là vraiment juste entre deux d'une oreille. Ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. j'ai essayé à un moment donné de faire ça pendant que j'étais en train de cuisiner. Non, en fait, c'est nul. J'ai revu la vidéo parce qu'au final, je pars tenu, j'étais pas pleinement dedans. Clairement, il faut être concentré sur le truc. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut être concentré, mais sur des séquences courtes.
Ouais. En fait, l'écoute que tu décris, qui est souvent celle des podcasts, elle sert surtout à se sensibiliser au sujet et à se convaincre. Après, c'est pas du tout de cette manière-là que je pratique en formation. C'est clair.
Tout à fait.
Parce que ça marche pas. C'est tout. Ça marche pas.
Ouais.
C'est agréable, mais finalement, on n'avance pas. Donc, bof.
Bah, il manque ce fameux passage à l'action.
Bah oui.
Après. Sinon, t'as juste enrichi ta base de données, mais il n'y a pas le passage à l'action. Et donc, justement, ça, bah, ça rend bien, parce que voilà, tu segmentes les choses comme tu peux. Alors après, il faut éviter effectivement de laisser trop de temps entre deux visionnages.
Ouais.
C'est important de garder une certaine dynamique et une certaine récurrence, mais au moins on peut s'y consacrer, même si c'est une demi-heure par jour. On arrive à avancer petit pas par petit pas et à ajuster les choses en fonction du niveau de charge, on va dire du planning. Donc ça, c'est quand même très très bien. Après, il y a le côté très structuré et donc très structurant. C'est vraiment les choses sont mises par étapes, mais vraiment dans le bon ordre. On n'a pas c'est pas une grosse série d'informations qu'on a, qu'il va falloir digérer, qu'il va falloir détricoter pour retricoter. C'est que vraiment on sent que t'es quelqu'un de très structuré, en fait.
Alors pour tout te dire, c'est pas ma tendance. En tout cas, j'étais pas structuré du tout. J'étais plutôt l'inverse de quelqu'un de structuré pendant assez longtemps, plutôt de profil créatif. Mais j'étais obligé de me structurer lors de ma vie professionnelle parce que sinon, c'était la cata. J'ai commencé comme contrôleur de gestion, moi. Il y a un truc que je raconte, qu'on me croit jamais hein, quand je raconte ça, mais pourtant, c'est la vérité. C'est que quand j'ai commencé à travailler en tant que contrôleur de gestion, je ne connaissais pas l'ordre des mois dans l'année. Donc j'ai un peu honte de ça. Enfin, j'en ai plus honte parce que maintenant, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais voilà. Donc moi, je pars. En fait, je me suis fortement structuré. Je pense que j'ai une aptitude à structurer les choses aujourd'hui, mais elle est apprise. Totalement, totalement apprise. Et c'est ça qui me permet d'être très productif. C'est d'être très structuré. Mais c'est voilà, à la base, j'étais pas du tout formaté comme ça. Et ce qui prouve d'ailleurs un truc que je supporte pas d'entendre et que j'entends beaucoup, parce qu'en France, on aime bien utiliser le mot « ou » plutôt que le mot « et ». On nous dit toujours, t'es soit créatif, soit organisé. Et non, tu peux être créatif et devenir organisé en plus. Et ça n'enlève rien à ta créativité. Au contraire, ça l'enrichit. Et vice-versa. Donc non, ça non, je partais pas. Alors après, oui, ça m'a structuré de faire du contrôle de gestion et puis plus tard de manager des entreprises, etc. Et je suis par contre complètement d'accord. Le podcast, il permet de comprendre les concepts, mais les formations permettent de les mettre en œuvre dans le bon ordre, parce qu'il y a un ordre, effectivement.
Et ça, et cet ordre, il est vraiment primordial. Et même justement, si on continue à faire le parallèle par rapport au podcast, c'est quelque chose qui est assez flagrant, c'est que les podcasts, c'est plusieurs idées, pas du tout déconstruites, hein, parce qu'elles vont toujours dans un même sens, mais par contre, qui sont quand même beaucoup plus dispatchées. Et ta formation, elle permet de réaligner tous les concepts que tu abordes sur tes podcasts et les réaligner vraiment dans le bon sens et dans le bon ordre. Et sans cette clé-là, c'est quand même difficile d'avancer correctement.
C'est clair.
Donc ça, voilà, pour moi, c'est un point très, très positif sur ta formation. Et c'est ce qui fait que ça se suit quand même simplement. Les concepts, en fait, ils arrivent comme des évidences et ils viennent s'imbriquer les uns avec les autres comme des évidences.
Et l'objectif aussi, parce que moi j'ai dû en passer par là, c'est qu'il faut que ce soit très simple à comprendre. Moi j'ai dû faire ce travail. En fait, je dis souvent, si tu veux devenir bon, il faut pas demander à quelqu'un qui était naturellement bon au départ. Il faut demander à quelqu'un qui était plutôt mauvais au début, qui s'est amélioré. Tu as beaucoup plus de choses à apprendre de ce genre de personnes. Je prends l'exemple dans une salle de sport. Si tu vas voir le mec qui, de toute façon, était né et qui poussait 110 kilos au développé couché, quand il est né, il ne saura rien te dire sur comment devenir fort au développé couché. Par contre, le mec qui a commencé, qui n'arrivait pas à soulever la barre et qui maintenant fait 110 kilos, lui, tu as des choses à apprendre de lui. C'est pareil pour la course, mais je pense que c'est pareil aussi pour le travail. Alors évidemment, il faut demander à quelqu'un qui a réussi à le faire. Sinon, il ne va pas te donner des bons conseils.
C'est clair. Et toujours par rapport au point positif de ta formation, c'est pareil, tu l'évoques déjà très souvent, mais c'est le fait que ce soit quand même très concret, que ce soit très... c'est très tangible, en fait. Et justement, le fait que ce soit très tangible, c'est ce qui te permet d'orienter ça sur un côté action. C'est pas... Alors, OK, il y a des brins de théorie. Il faut quand même commencer par fixer, à mettre les bases de certains concepts. Donc, forcément, ce sont des aspects plutôt théoriques. Mais en fait, très vite, d'une part, cette théorie, elle est appliquée d'une manière... Elle est exposée d'une manière très, très concrète. Donc, on arrive à rapidement brancher cette théorie dans notre petit cas particulier qui n'est pas le même que un tel ou un tel. Et en plus de ça, après, très rapidement, on arrive sur le là maintenant, commence à lister ça, puis maintenant avec cette liste là fais ça, etc., etc. Donc, ce qui fait que même si c'est en vidéo, même si c'est pas une formation présentielle, ça empêche pas de passer à l'action, à la seule condition que la personne ne soit pas juste pointée là en voyant de la lumière.
Non.
Personnellement, et je pense que c'est un prérequis indispensable, j'ai pris cette formation pas dans une volonté de changement. Et si effectivement tu n'as pas cette volonté-là, si tu t'imagines que tu récupères ça comme si tu téléchargeais un fichier et que c'est bon, comme par magie, les choses vont se faire, non, ça ne marchera pas.
Non, dans ce cas-là, en fait, c'est tout l'intérêt du podcast. C'est-à-dire qu'il a aussi cet intérêt-là, qu'il va préparer les personnes. C'est très clair. Soit le podcast t'adhère, soit t'adhères pas. Tu vois, là, ça fait une heure et un quart qu'on s'écoute. Je pense que les gens qui nous écoutent encore, clairement, ça veut dire qu'ils sont prêts à passer à l'action, parce que sinon, ils se donneraient pas le mal d'écouter une heure et un quart sur le management. Les gens qui adhèrent pas au podcast, de toute façon, ils n'adhéreront pas aux formations. Donc, le rôle du podcast, ou des vidéos que j'ai faites, c'est déjà de valider si on est d'accord sur les concepts. Après, si on est d'accord sur les concepts, c'est de valider si on est prêt à passer à l'action. Et ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Quelqu'un qui n'est pas prêt à passer à l'action, il ne faut pas qu'il prenne une formation. Parce qu'en fait, il va l'utiliser comme un podcast, et ça ne sert à rien. Autant écouter les podcasts, ça coûtera moins cher.
C'est exactement ça. Et après, le risque, c'est d'avoir une frustration derrière, en se disant, ouais, au final, c'est nul, ça ne sert à rien. Et en fait... Non,
si tu ne le mets pas en application, ça ne sert à rien de plus qu'un podcast, en fait.
C'est vrai.
Est-ce que tu as des chiffres ou des résultats concrets aussi que tu pourrais partager ? T'en as déjà donné pas mal quand on, pendant le début du podcast, mais est-ce que tu as d'autres choses, je dirais, sur des aspects un peu plus concrets ou factuels ?
Alors pour l'instant, en termes de données, on va dire strictement financières, je n'ai pas encore le rebond, même si ça fait partie, on va dire, de ma stratégie que j'ai mise en place pour l'année 2021. Donc là, pour l'instant, les éléments concrets...
Si ça peut t'encourager, je te le dis, j'ai eu il y a quelque temps des personnes que j'avais accompagnées puis qui a mis en place... des choses, et qui est expert comptable, il m'a dit là, alors lui, c'est l'année où il a travaillé le moins, où il a le plus délégué et où il a le plus embauché, qu'il a eu les meilleurs résultats. C'était l'année dernière, en plus pendant le Covid. Donc voilà, si ça peut t'encourager. C'est pas garanti, mais en tout cas, voilà, lui, ça m'a fait vraiment plaisir.
Ça me surprendrait pas. Et en fait, j'ai construit, on va dire, mes axes stratégiques dans ce sens. Mais là, par contre, un point qui est encore une fois très très récent, très factuel, je pense que ça pourrait aider quelques-uns peut-être, c'est le fait que j'ai eu un gros turnover. Quand on a 3 salariés, on a très vite un turnover qui est énorme.
Et si on a un qui part, ça fait 30%. Oui, c'est...
Ah ouais. Et là, pour le coup, sur trois collaboratrices, il y en a 2 qui sont parties.
D'accord.
Elles
sont pas parties à cause d'outils du manager, quand même.
Non, pas du tout. Alors, il y en a. En plus, il y avait un monsieur et 2 dames. Le premier, c'est le licenciement que j'expliquais tout à l'heure.
Ouais, ouais.
La deuxième, c'est une salariée avec qui les choses se passaient bien. Et là, pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment des circonstances de vie perso.
D'accord, d'accord.
Obligé à se poser, à dire ok, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va s'arrêter là, on va s'arrêter. Mine de rien, avoir une salariée qui a 12 ans d'expérience qui s'en va, forcément. Alors déjà, d'avoir 2 salariés sur 3 qu'on remplace, on se dit mon Dieu.
oui, ça fait c'est gros, c'est lourd. Si t'as pas la structure de management en place, là, ça peut même te mettre en grave difficulté. Ouais.
Et ça, encore, le licenciement, c'était quelque chose de choisi. J'ai réussi à trouver une solution de repli et provisoire et ensuite plus ancrée pour pallier à ça. La deuxième, quand on a pris la décision de dire qu'on s'arrête, là, pour le coup, je pense qu'en temps normal, j'aurais été un peu en panique. Vraiment. Là, concrètement... j'étais relativement serein parce que justement j'avais commencé à mettre en place ces choses-là. Cette prise de décision de se séparer, ça a été fin novembre. J'ai commencé ta formation tout début septembre. Il n'y a pas énormément de battements non plus, mais en attendant, j'avais mis en place des choses. J'avais mis en place aussi à côté mon système de vidéo tuto aussi qui, dans ma tête, je me suis dit ok, en fait. Si tu t'en vas, déjà c'est dommage, tant pis, les choses sont ainsi faites. Mais en fait, c'est pas grave, parce que la nouvelle personne qui va rentrer, elle va rentrer dans ce système-là et en fait, les choses vont bien se passer. Véritablement, j'ai pu être incroyablement serein dans mon process de recrutement, parce que justement, je me suis dit, le process d'intégration, il est là, il va fonctionner, et c'est le cas, en fait. La personne en question, commencé au mois de janvier, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure un peu en amont, c'est que effectivement là on arrive d'ores et déjà à mettre en place des choses, elle le perçoit véritablement comme un challenge, comme un véritable défi à relever, et on pourrait, en fait c'est motivant.
Oui, c'est ça, ça inverse le...
En même temps, cette motivation, je la balance pas juste toute seule dans une piscine en me disant vas-y, nage, alors qu'elle sait pas nager. Ça,
bien sûr.
Non, c'est pas ça non plus. C'est que non seulement il y a un défi à relever, mais en plus, je veille au grain. Je veille au grain et mon bras droit, et là aussi, c'est quelque chose qui devient très fort, c'est que une collaboratrice, mon autre collaboratrice qui, elle, travaille avec moi depuis à peu près 6 ans, niveau collaboratrice autonome, très bien, là, j'ai pu la faire monter d'un step, en fait. En
D'accord.
disant, écoute, maintenant, là, t'avais une assistante, maintenant, tu vas en avoir une deuxième. C'est quand même pas rien. Et puis maintenant, tu vas pouvoir... tu vas pouvoir commencer à déléguer ça, et puis toi, tu vas pouvoir te focaliser sur telle chose. On a pu se structurer de cette manière-là, et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu mettre en place sans une méthode préalable. Et vraiment, ta formation, ça m'a permis d'être très serein sur ce process, et non seulement d'être très serein, mais en plus de ça, mes deux collaboratrices assistantes, qui sont quand même vraiment débutantes, elles s'en sortent super bien. J'en suis super content. Très certainement qu'elles m'écoutent, alors j'espère qu'elles ont, le sourire en m'entendant. Voilà. Je suis quand même très très satisfait de les voir justement prendre du plaisir à évoluer. Je vois ma collaboratrice qui au début avait un petit peu peur d'avoir ce statut où vraiment elle va encadrer deux assistantes, et au final elle se dit oui, mais Genda, en fait t'avais raison, t'as bien fait de faire ça. Et donc ce qui fait que ça lui plaît, elle trouve du plaisir à cet aspect là et moi je suis juste super content. Donc au final on est tous alignés à un moment qui n'était pas du tout gagné d'avance, parce qu'encore une fois, quand tu remplaces les deux tiers de ton effectif, tu ne t'attends pas forcément à avoir ça en deux semaines.
C'est clair, c'est sûr.
Et ça, j'ai trouvé ça génial.
Excellent, super, formidable. Et puis, je pense qu'aussi, ça te donne de la visibilité pour plus tard, c'est-à-dire que maintenant, si tu as envie de faire grossir ton équipe, tu sais comment faire, quoi. Les bases, elles sont bien là, quoi. Donc, la porte de la croissance est bien ouverte.
C'est exactement ça.
Super témoignage, super expérience, je te remercie. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais dire, d'autres choses que tu voudrais dire aux auditeurs, peut-être des leçons que tu as tirées de cette expérience?
Ouais, alors déjà, je pense à un point qui me paraît quand même hyper important. Alors surtout, bon, j'ai plutôt une visu avec les chefs d'entreprise. Hein, parce que, j'ai plutôt ce profil de personne comme interlocuteur. Mais globalement, ce que j'ai l'habitude un peu de leur expliquer pour endosser leur casquette de chef d'entreprise, pour moi, il y a trois compétences, on va dire, nécessaires. Trois piliers, on va dire, un peu majeurs, sur lesquels on va pouvoir construire le reste. C'est d'une part leur capacité technique.
Bien sûr.
Autrement dit, d'avoir une bonne maîtrise de ce que l'on fait et de ce qu'on va ensuite faire. Maîtriser ça. Ensuite, la partie commerciale, savoir vendre ce qu'on fait. Mm-hmm. Parce que bon, si on a beau être très très bon pour faire un truc, si on n'arrive pas à le placer sur un marché, on va avoir du mal à décoller. Et une partie organisationnelle qui va permettre véritablement d'orchestrer la manière dont on fait les choses, et donc de réussir à gagner en efficacité et en efficience. Mm-hmm. Là, pour moi, c'est trois éléments majeurs. Et en fait, ce que je constate, surtout pour les petites entreprises, c'est qu'on part du postulat que comme j'ai pas beaucoup de moyens, première des priorités, c'est l'accès commercial pour rentrer très très vite du chiffre. Et ce que je constate à ce moment-là, c'est qu'on a un coût assez classique, on a une hyper-croissance d'un seul coup, et donc on subit le fait de devoir embaucher un peu à l'arrache, et puis on n'a pas construit, on va dire, un modèle de management, un système de management qui permette de rendre cet aspect-là fluide. Et on arrive très vite, j'ai vraiment vécu sous des entreprises qui sont ensuite vraiment passées en difficulté derrière. C'est qu'on a ce sentiment que l'entreprise, ok, très bien, le chiffre d'affaires, il est en train de décoller, mais à chaque fois que j'embauche quelqu'un, c'est un idiot. Vraiment, je l'ai entendu très très souvent d'un de mes clients qui me disait, mais je comprends pas, en fait, c'est des idiots. Non, en fait, c'est pas des idiots. C'est juste que le deal, il est pas clair. La personne, est-ce que tu lui as expliqué ce que tu veux? Oui, je lui ai expliqué. Non, mais si on lui a expliqué juste comme ça à l'arrache, ça peut pas marcher. Et clairement, cet aspect organisationnel et management que je mets un petit peu dans le même cercle, il est hyper important à avoir, même quand on est petit. L'organisation d'entreprise, d'avoir un système d'organisation, un système de management fiable, c'est pas un truc réservé aux gros. J'ai presque envie de dire, même quand on n'a pas de salariés, en fait, c'est très utile de commencer à se focaliser sur ces aspects-là. D'autant plus que le jour où tu as 20, 30, 40 salariés et que tu veux commencer à mettre ça en place, ça va être très, très compliqué.
Il y a l'aspect commercial, organisationnel, je suis d'accord avec toi. Et puis, un chef d'entreprise, il est là pour créer des actifs. Ça, on l'oublie assez souvent. Il n'est pas que là pour créer du résultat et un chiffre d'affaires. Il est là pour ce qu'on appelle des actifs. En fait, c'est ce qui va générer du chiffre d'affaires récurrent. Et tu sais bien que la valeur d'une entreprise, en fait, elle vient surtout de son chiffre d'affaires récurrent, pas du coût qu'il a fait l'année dernière et qu'il refera jamais. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'intègrent pas ça, déjà, que en fait, faire une activité récurrente, ça a beaucoup plus de valeur que de faire une activité ponctuelle. Et la deuxième erreur qu'ils font, c'est qu'ils n'intègrent pas dans leurs actifs, parce qu'en fait, finalement, c'est pas écrit dans le bilan ni à aucun endroit, leur système de management. C'est-à-dire ce qui va leur permettre, en fait, d'assumer la croissance de l'entreprise. Et quand on n'a pas compris ça et qu'on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? On fait des coûts. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, il fait un bond et immédiatement derrière, il s'effondre. Parce que finalement, on n'a pas la structure, et puis on embauche, puis ça marche pas, puis ça nous pose des problèmes. Donc on est obligé de licencier, et donc il faut réembaucher. Et du coup, en fait, on se met à faire du mauvais management, et du coup, on perd son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi que, en fait, tout ça, ça doit se faire en parallèle. Et le chef d'entreprise, il ne peut pas avoir qu'une seule casquette, il doit en avoir plusieurs. Et une des casquettes les plus importantes, c'est celle du manager, s'il veut que son entreprise grandisse. C'est très, très clair. Maintenant, je mets juste un bémol, parce que j'y ai jamais pensé avant. C'est un cas qu'on a eu récemment d'une personne qui a suivi la formation et qui me disait « j'ai fait tout comme c'était indiqué, et finalement, ma boîte décolle pas ». Et en fait, la personne, là, pour le coup, elle n'avait pas validé d'abord le modèle économique de son entreprise, c'est-à-dire que elle est trop vite passée dans la phase je veux plus être impliqué au quotidien, je veux très très vite prendre du recul, mais elle avait pas validé son business model. Et ça, quand même, un chef d'entreprise, il a cette chose à faire avant, c'est juste de valider que son activité est rentable. Parce que voilà, là aussi, c'est pour ça que je mets un tout petit bémol par rapport à ça, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, évidemment, ça fonctionne si on a des clients et si on a du chiffre d'affaires, hein, c'est très très clair.
C'est vrai, non, mais tu as tout à fait raison. Ça c'est certain. Sinon effectivement, ça devient de la perte sèche. Effectivement, c'est... Le facteur management, comme tu dis, ça a un actif. Il faut le voir vraiment comme un investissement. Donc effectivement, faire un investissement à perte, bon, c'est un peu dommage.
C'est clair, exactement. Voilà. On peut le voir comme donc, ça.
Par contre, je pense que ça va vraiment l'aspect management, l'intérêt de le mettre dès le départ, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple à le mettre en place. Moi, je le vois bien. En termes d'organisation, c'est beaucoup plus simple de mettre en place des 1-1 avec 3 personnes.
Oui.
Du jour au lendemain, je veux dire. Alors que si j'en avais une dizaine, ce serait certainement beaucoup plus compliqué.
Oui.
Donc ça, c'est important, je pense, de le prendre en amont. Et encore une fois, des petites entreprises, elles doivent surtout pas avoir peur de ça, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, une des questions récurrentes sur le forum que j'ai, c'est j'ai 40 salariés, j'arrive pas à faire des 1-1 avec tout le monde, comment je fais ? Donc c'est exactement le problème que tu décris. Hein. Je dis ça en rigolant, hein, c'est pas forcément 40, mais j'ai le cas. Et donc faut expliquer. Ouais. Le premier pas, c'est de mettre en place des relais de communication avec qui on va commencer. Mais effectivement, l'idéal, c'est ce que tu viens de décrire. Aujourd'hui, j'ai 3 salariés, je mets tout de suite en place un système de management. Ça coûte très peu en termes de temps et c'est un actif pour le futur. Donc ça, c'est le meilleur cas de figure qu'on puisse trouver. Ou bien le manager qui arrive tout juste en poste et puis qui a 8 personnes dans son équipe, par exemple. Après, l'autre cas de figure, on le gère aussi. Hein. Quelqu'un qui a déjà 40 personnes et qui est déjà débordé, c'est la même méthode, sauf qu'il y a des petites étapes intermédiaires à mettre. Ok, écoute, super.
Voilà.
Ça fait, je crois, 1h30 quasiment qu'on parle.
je t'avais prévenu.
mais c'était passionnant. C'était passionnant. Ouais, en tout cas, je te remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. J'espère que ça va parler aux auditeurs. Si des personnes veulent t'interroger ou discuter avec toi, est-ce que tu es sur le forum ?
Oui, alors c'est vrai que j'interviens pas forcément régulièrement, parce que c'est vrai que forcément ça nécessite un petit peu de temps, mais je l'ai déjà fait 2-3 fois.
D'accord.
D'ailleurs, c'est très drôle, la personne se reconnaîtra certainement, mais j'ai quelqu'un en fait qui s'est mis en contact avec moi sur LinkedIn après pour me demander en direct un témoignage. Donc j'ai échangé directement avec cette personne.
Ah d'accord.
Justement pour lui expliquer, bah voilà, bah la formation elle est moche, c'est comme ça et tout. C'est super cool, vas-y fais-la. Ça vaut le coup. J'ai eu cette occasion là. Bon, voilà. Techniquement oui, je suis techniquement joignable sur le forum hein, si jamais, pas de problème. Mais également sur LinkedIn.
D'accord.
Gendal
Ramon.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Okay. Et voilà, si y a des personnes qui veulent venir échanger, discuter, vous êtes tous très bienvenus. J'aime bien me prêter à cet exercice-là. Donc,
super.
N'hésitez pas.
Tout à l'heure, on va arrêter là, mais j'ai un truc à te proposer juste après à propos de la formation tableau de bord dynamique que tu n'as pas prise, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus puisque tu es dans la partie.
D'accord.
Ok. En attendant, écoute, je te remercie infiniment. Et puis,
merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli, parce que pour moi, ça a été un moment aussi très, très, très agréable de pouvoir échanger avec celui que j'appelle mon mentor du management en ce moment.
Wow. Là, vous ne voyez pas, mais je suis en train de rougir.
vraiment, ça a été un instant très, très agréable.
Super. À bientôt.
À très bientôt.
Salut Gendal, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si le podcast te plaît, évidemment, et si tu as envie de nous rendre un grand service, c'est le moment d'aller dans ton appli de podcast et de cocher les 5 étoiles, voire de nous mettre un commentaire, ce qui est encore mieux. C'est le seul moyen, c'est le moyen le plus important pour que le podcast soit diffusé le plus largement possible. Ça te prend quelques secondes et ça nous rend un énorme service. Donc merci d'avance et puis je te donne rendez-vous soit tout de suite sur le forum ou soit la semaine prochaine sur le podcast. À bientôt, au revoir. Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. En fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service et ça nous fait super plaisir. Merci.